Nega News, le journal.
Vous êtes sur Nega News FM, il est l'heure de vous informer. James Katoto est à la présentation de cette édition du journal. La mise en onde est assurée par Bonsoir Daniel Ekima. Les titres. Plus de 399 millions de francs congolais, soit un accroissement de 66,39%. Contrairement à l'exercice 2022, c'est le budget adopté par l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour l'exercice 2023 du gouvernement provincial le 13 décembre 2022. Détail dans ce journal. Et puis, les écoles de la ville de Kalemie, construites depuis l'époque coloniale, sont dans un état de dépercement. Plusieurs dirigeants de ces écoles estiment que les désintéressements des autorités concernées en est la cause première. Jérôme Batangué nous en dira plus. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Je l'ai dit tantôt, l'Assemblée provinciale du Tanganyika vient d'adopter le budget exercice 2023 du gouvernement provincial, c'est 13 décembre 2022, évalué à plus de 399 millions de francs congolais, soit un accroissement de 66,39% contrairement à l'exercice 2022. L'économie de la province du Tanganyika est en équilibre en dépenses, tout comme en recettes, a affirmé la gouverneure de cette province. C'était à l'occasion d'une plénière où Julie Ngungwa Mayuma est allée répondre aux questions lui adressées par les élus provinciaux samedi 10 décembre dernier. Suivez un court extrait de la présentation de ce budget par Julie Ngungwa Mayuma, gouverneur du Tanganyika, dans ses propos recueillis par François Ototomusela.
Dans le projet de budget 2023, la dotation de l'Assemblée provinciale est alimentée par deux sources de financement, à savoir la rubrique fonctionnement de 9% de 31,89,711,668,42 centimes. De la rubrique fonctionnement de 40% des recettes à caractère national allouées à la province arrêtée à 5,997,672,144 et 10% de francs congolais 44,704,5108,68 centimes. Des recettes locales de la province précisément, des recettes d'intérêt commun et les taxes spécifiques estimées à francs congolais 4,407,500,510,87 centimes. En faisant le calcul, vous comprendrez avec moi que le budget de l'Assemblée provinciale accuse un taux d'accroissement de 126,84% par rapport au budget de l'exercice 2022 arrêté à francs congolais 4,586,950,587,70 centimes. Soit une augmentation de francs congolais 5,818,022,767,17 centimes.
Après un débat houleux entre les élus, certains trouvent favorable cette prévision budgétaire et d'autres estiment que ce budget ne répondra pas aux aspirations de la population du Tanganyika. Je vous propose de suivre tour à tour les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Jean Pignembo et l'honorable député Alexis Katempa.
L'Assemblée a vérifié et il a trouvé que quelque part il y a eu une petite mutation par rapport à ça, mais de toute façon, c'est pas pour rien que vous avez vu, lorsqu'on a reçu ce budget, le budget a été remis à la commission ECOFIN et c'est à la commission ECOFIN qui va travailler ensemble avec le gouvernement provincial. C'est à ce moment-là qu'on va régulariser ces irrégularités que les honorables députés ont trouvées par rapport à justement parce qu'il y a une très grande différence quand vous regardez le budget qu'on a vu pendant l'exercice 2022 et ce qu'on a cette année, vraiment il y a une très grande différence. Espérons que ça va couvrir ce que vous avez. Nous attendons la correction qui va se passer dans la commission ECOFIN. La commission ECOFIN va donner rapport à l'Assemblée plénière et c'est l'Assemblée plénière qui va conclure cette opération.
Au début, j'avais annoncé le fait que le budget n'était pas déposé dans le délai imparti. J'avais évoqué même des articles du règlement intérieur et même le règlement de la loi relative aux finances publiques. Et j'ai trouvé que le projet, le budget n'était pas réaliste. Alors, ça a violé même le principe de sincérité du budget parce qu'il y avait beaucoup de sous-estimations et beaucoup de sous-estimations. Parce que moi, je ne veux pas comprendre. Une budget doit prendre, doit connaître l'accroissement de plus de 549%. C'est tout. C'est un budget qui a été élaboré pour répondre aux besoins de l'exécutif, parce que les experts costauds. Vous allez voir que même dans les choix d'investissement, ce sont des intentions. C'est un chapeau de bonne intention. Je ne pense pas, je suis sûr que ça passe avec plus bon maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelque chose ici.
C'est un dossier complet signé François Ototo. À Calémi toujours, les écoles construites dans l'ancien temps par les Belges et différentes congrégations sont dans un état de dépérissement. Selon plusieurs dirigeants de ces écoles, les désintéressements des autorités et des anciens élèves qui sont passés par ces écoles, malgré toutes les doléances l'air déposées, est la cause primordiale de l'état actuel des maisons d'encadrement. C'est un dossier focus réalisé par Jérôme Batangué. Suivez.
État d'école construite dans la Cinta par les Belges, où plusieurs autorités de la province itaganica sont passées, se trouve dans un état d'épérissement très avancé. Nous sommes à l'école primaire Mendeleo, située au centre-ville d'Académie sur les lieux portant les mêmes noms. Cette toute première école, construite à Albertville par les Belges en 1921, avait pour but d'encadrer les élèves dont les parents sont de l'église catholique. Cet état de délabrement avancé est dû au désintéressement des autorités, malgré les bons nombres d'oléances leur déposées. En 1931, bien sûr, l'école primaire Bakita 1 est construite par les Sœurs Blanches. Elle était appelée auparavant Sainte-Marie. Ici, seule la féminité devait étudier afin d'être évangélisée.
Améliorer l'état de ces bâtiments, pour nous, c'est un peu difficile. Parce que c'est quelque chose qui demande des moyens, des gros moyens d'ailleurs. Quand vous regardez l'état de ces bâtiments, quand les missionnaires belges construisaient, ça demandait beaucoup de moyens. Alors nous, à notre niveau, nous ne saurons pas. Peut-être l'état congolais, lui qui est responsable de tout ça, c'est lui qui peut reconstruire ou réhabiliter nos bâtiments.
Cette fois-ci, nous prenons la direction vers l'école primaire Kitumaini 4. Construite en 1948 par la Société missionnaire des Pères Blancs, cette école, l'état de sa vétusté semble insupportable. Pas de banquettes, toitures trouées, salles sans portes, séjour. Il est difficile de reconnaître cette école par manque de la peinture. Son directeur, Luengue Kamona Jérôme, estime que l'état de la vétusté est dû à l'ancienneté.
Elle a été dirigée dans le vieux temps rien que par les Pères Blancs. Alors, à l'accession de notre pays à l'indépendance, elle est passée dans les mains des autochtones. Et c'est Mougan Xavier que j'ai remplacé en 1926. Voir l'état actuel, comme elle a été construite en 1948, vous vous rendez compte dans quel état elle est actuellement. Elle est dans un état de vétusté, délabrement total. Nous faisons des démarches, nous nous débattons à gauche et à droite, mais il n'y a rien qui aboutit. C'est une école qui date de longtemps. Le toit d'abord est dans un état de délabrement très avancé. L'école fut le siège ou le camp des militaires rwandais qui avaient détruit tout, absolument tout. Heureusement qu'il y a eu quand même les gens de bonne volonté, entre autres le PNUD, qui a pu construire vite quelques banquettes et quelques pupitres, c'est ce qui nous reste actuellement. Nous avons essayé à plusieurs reprises de lancer un appel à tous les anciens élèves qui sont passés par ici, mais c'est un silence de mort.
Nous voici enfin en route vers les quartiers Kaseki, dans la commune du Lac, où était construite l'école primaire Faïda en 1939 par la congrégation des Pères Blancs pour lutter contre l'analphabétisation chrétien-catholique. Selon les directeurs adjoints de cette école, Kississi Kantou Floribert confirme que l'insuffisance des moyens serait à la base de la non-réhabilitation de cette maison d'encadrement.
Elle était implantée sur les rails là, à proximité du troisième pont de la rivière Kaseke, en allant vers la gare Makala. Maintenant, ce n'est que en 1957 qu'elle sera transférée à l'endroit où elle est aujourd'hui. Auparavant, il y avait beaucoup de subsides. Peu après, il n'y avait plus rien. On commençait à dépendre du secours des parents. Actuellement, maintenant, nous avons des subsides, mais qui sont insignifiants. La quantité n'est pas convenable pour réhabiliter l'école convenablement. Nous-mêmes seuls, nous ne pouvons pas y parvenir. Il faut des secours à tout moment. Parce que nous n'avons pas de fonds. Des fonds que nous pouvons utiliser pour réhabiliter cette école. J'appelle ceux qui ont la bonne volonté qu'ils puissent nous aider à réhabiliter cette école.
Malgré toutes les doléances déposées aux autorités et aux anciens élèves, aucune solution n'est trouvée quant à leur demande.
Vous écoutez Ndenga News sur 104.0 MHz, votre radio de proximité. Kabalo, Kalemi, Kongolo, Manono, Moba, Nyunzu et partout en République démocratique du Congo. Voici votre chaîne d'information.
Dans le territoire d'Ikalemi, une femme âgée de plus ou moins 70 ans est morte incinérée dans sa propre maison la nuit de samedi à ce dimanche 11 décembre 2022 à Kabimba au quartier Lubandaï. Selon le témoin sur place, l'effet d'origine inconnue a été la cause de cet incident. Dans la société civile dans cette partie du territoire affirme que les enquêtes ont été ouvertes pour dénicher l'origine du fait. Mika Omari pour les détails.
Une femme âgée de plus ou moins 70 ans, morte incinérée dans sa maison, se trouva au quartier Lubandaï annexe, ici à Kabimba. L'événement malheureux a eu lieu la nuit du samedi à dimanche 11 décembre 2022, aux environs de 0h locale. Maman Joséphine Moussabika Modeste a été surprise par un feu qui a commencé au niveau de la porte et comme elle était dans une chambre, cette dernière n'a pas eu la force de se sauver. Après les secours, tard, on a retrouvé que la crâne et quelques os signalent son fils Edouard Maharaza.
Il y a aussi qu'on me couche à Kulala, il y a minuit à Psycho, il y a aussi qu'on y a Moucha. Il y a pour amour qu'on a bien Kwamba, maman Yako et Zofine à me couche à Koufa. Il y a po kwenda nikakutana nyumba yote inalungula. Basi nipo uliza wakaniambia kwamba ailungulia mnyumba kwa sababu walikuwa nalala mnyumba ambayo ilikuwa na kongwa moto ambayo kwa wanasongeyemo. Basi na mlikuwa makuni mingi, mlikuwa visake ibya kuanikia. Basi kumbe wakati moto usiku wa kuzimiko kakamata ile masake, wakati sasa moto ulikamata ile masake ndio ikafika wakati alikuwa kujitambua, moto ulishafunika mlango. Kwa kutoka kukashindikana, ndivyo sasa moto ukamuunguza. Walipoamka wengine, wakakutana nyumba yote imekwisha kamata moto. Basi wanjirani walipokuja kwa moja kusaidia, wakakutana hakuna mwae tena. Baadaye wakakutana kwamba yule mama anangulia mnyumba alikuwa ishakuwa mama wa makamo.
Signalonke, le reste du corps de cette dame a été enterré au cimetière de Lubandaï après l'autorisation des autorités de sécurité ainsi que les autorités territoriales de Kabimba. Omar Mika pour la radio Ndenga FM.
Dans le territoire des Kabalo, dans la province du Tanganyika, toujours les maniocs pourrissent dans les sols. Une situation consécutive à une maladie qui attaque les racines des maniocs. L'inspecteur de l'agriculture dans la région, Pungwe Mulambwe, indique que plusieurs familles éprouvent déjà des difficultés pour trouver à manger. Celui-ci demande aux autorités à s'impliquer pour les aider avec les produits afin de trouver solution à ces problèmes qui affectent le tubercule. L'inspecteur de l'agriculture dans le territoire du Kabalo est au téléphone de Paul Ilunga Boniface.
Ici chez nous, il y a quelques champs qui sont attaqués par une maladie là qu'on appelle Mbolela. On appelle pour y dire, mais en Kinouba, on appelle Mbolela. En tout cas, c'est une maladie là qui n'est plus connue comme il faut. Maintenant, c'est les tubercules sont en train de pourrir. Quand une maman cherche aussi à creuser les maniocs, mais vous trouvez d'autres racines qui sont déjà pourries. Vraiment, dans notre territoire, c'est deuxième vraiment obstacle qui sont en train vraiment de nous handicaper ici à Kabalo. Avant tout, c'était d'abord le problème des éléphants dans le groupement Moulimi. Après les éléphants, maintenant, c'est le problème des pourritures maintenant qui est généralisé dans tous les territoires de Kabalo. Comme on n'a pas aussi les produits phytosanitaires pour lui, on est en train tout simplement de leur conseiller, mais quand ils creusent et puis ils trouvent la pourriture, ils peuvent aussi simplement découper la boutire et incinéré là-bas. Un saut de 10 kilos ici, ça se vend à 25 000. Auparavant, c'était un saut de 10 kilos à 10 000. Maintenant, cette fois-ci, les prières et aussi même les maïs ne se voient même plus.
Le monde entier a célébré ce 12 décembre 2022, la journée de la couverture santé universelle. À Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a présidé la cérémonie commémorative de cette journée sous le thème « Construire le monde que nous voulons, un avenir en bonne santé pour tous ». Cette rencontre, organisée par le Conseil national de la couverture santé universelle de la République démocratique du Congo, a connu la participation de plusieurs autorités politiques et celle rôle œuvrant dans le domaine de la santé. Pour le ministre congolais de la Santé, Jean-Jacques Mungani, 60% de la population congolaise n'a pas accès aux soins de qualité. Il est au micro de Guillaume Goyamissi.
Il vous souviendra que lors de son discours d'investiture du 24 janvier 2019, le chef de l'État avait dit, je cite, « Environ 50 millions de Congolais représentent 60% de la population, n'ont pas accès au système de santé. Nous demanderons au gouvernement de prendre des mesures rapides pour la réhabilitation des hôpitaux de référence, la construction de la plateforme de santé, la mise en place d'un système de couverture sanitaire. Nous ne pouvons pas accepter un système de santé défaillant au péril de la vie de nos concitoyens. Le gouvernement aura pour mission d'accroître de 10% par an le taux de couverture des populations par un système d'assurance maladie abordable et efficace jusqu'à l'atteinte de la couverture maladie universelle. » Fin de citation. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la couverture santé universelle, ce 12 décembre 2022, placée sous le thème « Construire le monde que nous voulons, un avenir en bonne santé pour tous. Je salue l'opportunité qui m'a été accordée de faire l'état des lieux de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en RDC à ce jour. »
Ndenga News, sur l'ensemble des territoires de la province du Tanganyika jusque dans la région du Grand Lac. La meilleure de l'information des proximités.
Un cas de justice populaire a été enregistré à Mississi, en territoire de Fizi, au sud de Kivu. Il s'agit d'une fille âgée de 12 ans qui a été tuée à coups de bâtons et de pierres par sa famille après avoir été accusée de faits présumés de sorcellerie. Le drame s'est passé la nuit du dimanche à ce lundi 12 décembre 2022, indique des témoins dans la région. Des sources de la société civile, par contre, estiment que la victime a été reconnue sorcière par sa tante maternelle sous prétexte qu'elle aurait causé son avortement. Je vous propose de suivre cette femme au micro de Massimo Balole Valentin.
Mon petit-fils est mort. Il a été tué par Pierre en disant qu'il est sorcier et c'est lui qui voulait provoquer l'avortement de sa tante. Quand moi j'ai appris cela, je dis à Guillaume de ne pas se faire juger car il y a les autorités établies pour juger la question. Donne-moi l'enfant alors pour que je rentre avec lui de là où nous sommes venus. Guillaume m'a répondu, maman, je vais rien faire à cet enfant. Je suis partie. À ma grande surprise, quand je suis arrivée à la maison, j'ai trouvé l'enfant déjà mort. La cause qui a fait à ce que Guillaume tue cet enfant est que l'enfant était soupçonné d'avoir pratiqué la sorcellerie pour faire avorter sa tante. Alors que moi, j'avais déjà dit à Guillaume de ne pas prendre une décision qu'il pourrait regretter après. Mais lui n'a pas voulu m'écouter. Il a attendu mon départ pour tuer l'enfant.
Il faut dire que des cas de justice populaire prennent de l'ampleur dans cette partie de la province du Sud Kivu où des femmes et des enfants sont régulièrement victimes d'accusations des sorcelleries. Des structures de la société civile plaident pour l'implication des autorités compétentes et organisations de défense des droits humains pour mettre fin à ces phénomènes qui endeuillent plusieurs familles dans cette contrée. À Uvira, pour terminer, l'organisation Initiative des femmes pour le développement, l'autopromotion de la paix, en collaboration avec la Fondation Panzi, a organisé ce lundi 12 décembre une séance d'évaluation mi-parcours des activités liées à la problématique de la masculinité positive. 25 personnes bénéficiaires du projet ont été conviées à cette séance. Des avancées significatives ont été enregistrées dans les communautés par rapport aux questions liées aux droits de la femme, l'égalité, l'équité, le genre et la masculinité positive. Pour Madame Aimé Biamungu, coordonnatrice de l'organisation IFDAP, s'est dit satisfaite des témoignages faits par rapport aux activités que son organisation a réalisées dans le cadre du programme de l'équité des genres et de la promotion des droits des femmes dans la ville et les territoires d'Uvira. On l'écoute au micro de Françoise Boukereau.
Nous avons tous constaté qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer dans nos communautés. Vous avez suivi vous-même des exemples palpables qui ont été cités ici par rapport au changement à travers les activités que nous sommes en train de réaliser avec la Fondation Panzi, notamment à travers l'approche masculinité positive. Quand nous parlons de la masculinité positive, si je peux me résumer, c'est en sorte de sensibiliser surtout les hommes d'avoir cette culture-là, de promouvoir les femmes. Et là, maintenant, nous sommes en train d'appeler l'homme à travers tous les poids qu'a la femme, que les hommes puissent aider puisse participer à amoindrir ces poids-là qui pèsent sur la femme. Oui, les défis sont toujours là, hein. Vous comprenez, madame, que c'est un processus. Petit à petit, les hommes sont en train de comprendre que et la femme et l'homme sont des créatures de Dieu. Alors, nous appelons les hommes de comprendre, d'alléger ces poids-là qui pèsent sur la femme.
C'est la fin de cette édition du journal qui a été présentée par James Katoto, mise en onde par Bonsoir Daniel Ekima, la supervision de Paul Ilunga Boniface, sous la coordination de Foraïcha Makangila Zabuloni. L'actualité reste en continu sur nos antennes, mais aussi sur les www.radiondenganews.net. Merci de nous faire confiance, votre fidélité nous honore. Au revoir.